Hardigan présente Le soleil sous la soie d'Éric Marchal par François Montaigu. Avertissement. Certains des personnages de ce roman sont imaginaires. D'autres sont bien réels, sous leur propre nom, ou parfois sous un nom inventé, en fonction de la liberté prise dans l'adaptation de leur vie. L'intrigue, quant à elle, est fictive, mais utilise de nombreux éléments de l'histoire de France et du duché de Lorraine, allant des faits les plus connus à ceux restés obscurs ou tombés dans l'oubli. Chapitre 1. Duché de Lorraine, janvier 1694. Première partie. La masure lui tenait chaud comme un manteau en drap d'Espagne. Il l'avait avisé à la sortie du bois de Nomeny, alors que le ciel crayeux avait crevé sur lui une armée de flocons neigeux. Puis il avait tiré jusqu'à l'épuisement sur les rênes de sa mule qui refusait d'y entrer, et s'était écroulé avec sa bête devant l'âtre rempli d'une couverture de cendres froides. À son réveil, il avait constaté avec soulagement la présence d'un fagot de bois sec qu'il s'était empressé de faire crépiter. Il serait temps le lendemain d'aller chercher quelques branches mortes afin de rendre le tas tel qu'il l'avait trouvé. L'habitation tout en torchis était inoccupée. Peut-être une famille qui avait fui au passage des troupes françaises, ou de la disette qui rôdait. La Lorraine n'avait pas fière allure en cette fin de siècle, martyrisée par 30 ans de guerre et d'occupation française, avec un clan ducal exilé en Autriche, en campagne ouverte contre Louis XIV. Abandonnés à leur sort, les habitants payaient un lourd tribut au conflit, par l'enrôlement des leurs dans la milice et les impôts levés dans tous les bailliages pour l'entretien des troupes. Nicolas frotta ses mains avant de les présenter aux flammes généreuses. Il craignait plus que tout les engelures et les crevasses qui, en cette période, n'épargnaient pas les doigts, même s'il voyageait toujours les mains emmitouflées dans des manchons de laine. Elles étaient ses plus précieux outils, plus encore que ses lancettes et ses ferments. La mule s'était elle aussi rapprochée de la source de chaleur et lui présentait ses flancs. Il avait déchargé ses affaires, qui tenaient dans 2 sacs de toile et une mallette, et les avait installées dans l'angle opposé à la cheminée, à côté de la porte sous laquelle le vent se faufilait en hurlant à chaque rafale. Son dernier patient, un fermier du village de Soignes, lui avait laissé assez de vivres pour subsister 3 ou 4 jours. Il l'avait débarrassé d'une grosseur à la base du cou en employant un emplâtre que le médecin Pierre Alliot avait appliqué avec succès sur le fils du duc de Lorraine. Ce détail avait rassuré l'homme autant que la perspective d'éviter une cautérisation douloureuse. Nicolas ouvrit sa valise et sortit le traité de Govert Bidlot. L'ouvrage était en latin, ce qui lui en interdisait la lecture, mais les planches d'anatomie qui l'illustraient le fascinaient. Elles avaient été créées par le peintre Gérard de Lairès. Chaque dessin au crayon apportait un réalisme stupéfiant aux réalisations du chirurgien hollandais. Il avait acquis le livre à la foire de Metz l'été précédent, et depuis, il ne s'était pas passé un soir, pas une journée, sans qu'il en feuillette un passage ou contemple un dessin pour y inscrire chaque détail dans sa mémoire. L'unique fenêtre de la masure était couverte d'une buée sur laquelle perlaient des gouttes d'eau. Nicolas comprit seulement à cet instant qu'elle n'était pas close par des planches de bois, ce qui l'intrigua. L'endroit, bien que saturé d'humidité, ne sentait pas le moisi habituel des pièces qui lui étaient proposées comme hébergement. La mule s'était approchée de la vitre et léchait la condensation de grands coups de langue que l'air exhalé de ses naseaux recouvrait aussitôt. Lorsqu'elle cessa pour reprendre sa place près du feu, Nicolas vit distinctement une ombre glisser au dehors. Quelqu'un l'observait. Il ouvrit la porte sans brusquerie et aperçut un enfant en guenilles qui détalait sur le sentier. Ses pieds étaient nus. Lorsque Nicolas lui enjoignit de s'arrêter, le gamin redoubla d'efforts. Arrivé à la lisière de la forêt, il se retourna, hors d'haleine. « Reviens, petit ! N'aie pas peur !» Le garçon se laissa avaler par la noirceur du sous-bois.